Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, c'est vrai, pour cette grâce que nous avons de pouvoir prier les uns pour les autres. Vraiment, c'est une bénédiction d'avoir cette possibilité de pouvoir s'associer ensemble, de pouvoir s'unir et de pouvoir réclamer la grâce de Dieu sur chacune de nos vies. Donc, vous l'avez compris, ce matin, c'est moi qui ai la responsabilité d'apporter la parole. Notre pasteur est parti sur l'église de Groyer. Et on pense bien aussi à lui dans la prière, que vraiment le Seigneur puisse l'utiliser encore pour déverser une grâce sur cette église de Groyer. Et ce matin, nous associons ensemble, et si vous le voulez bien, avant de pouvoir lire le premier texte dans Josué, on va encore prier, je vais encore prier pour réclamer la grâce du Seigneur sur ces moments. Seigneur, je te bénis, Père éternel, parce que c'est vrai, nous avons passé un temps excellent à pouvoir élever nos voix vers toi au travers des cantiques, au travers des chants, au travers des prières, Seigneur Dieu. Et nous nous réjouissons, Seigneur Dieu, de vraiment encore tout ce que nous avons déjà pu élever pour toi. Mais Seigneur, maintenant nous te réclamons encore ta grâce, mon Dieu, mon roi, afin que ton esprit puisse vraiment prendre le contrôle de ces moments et que nous puissions être tous spectateurs, Seigneur Dieu, et au bénéfice de ta parole, Jésus. Spectateur de ce que tu vas accomplir encore ce matin au travers de ta parole, au travers de ton esprit, Jésus, nous te le demandons, Père, je te demande ton assistance, afin que vraiment, Saint Dieu, ma bouche soit légère, et que vraiment je puisse parler de ta part, mon Dieu, mon roi, afin que ton nom puisse être glorifié, afin que ton église puisse être enrichie, et que ton église puisse être bénie. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Alléluia. Amen. On va lire deux passages dans la parole de Dieu pour commencer. Et le premier passage, on va le lire dans Josué au chapitre 2. Josué au chapitre 2, on va lire à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partèrent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter des espions sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qu'ils mènent au gué de Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous. » Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant nous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous te jurons sur notre propre vie. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi, avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre par une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés, et après cela, vous suivrez votre chemin. On lit un peu plus loin au chapitre 6. Au chapitre 6, on va lire à partir du verset 22. Donc entre-temps, le peuple d'Israël avec Josué à sa tête va rentrer dans le pays promis et va faire cette première bataille. Vraiment là, ils vont rentrer dans cette conquête du pays promis. Mais là, ils y sont et ils arrivent, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays. entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Et ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle habite au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Un texte extraordinaire, une histoire bien particulière. Et avant de rentrer dans le détail de cette histoire, j'aimerais qu'on puisse lire un autre passage qui, à première vue, n'a rien à voir. On va lire dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 11, Luc 17, verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à les dire, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Alléluia ! Vraiment encore un texte extraordinaire où on voit la puissance de Dieu agir, où on voit vraiment combien le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. Ce matin, ça fait un petit moment que ces passages et ce thème que je vais aborder avec vous ce matin est sur mon cœur. Ma maman m'avait partagé un extrait d'une prédication il y a un moment de cela et le thème que le pasteur avait abordé m'a vraiment intrigué et j'ai pris le temps de pouvoir chercher dans la parole et en réfléchissant sur cela, il y a ces deux passages qui sont venus. Ces deux passages qui sont venus, l'histoire de Rahab, la prostituée, et l'histoire de ce Samaritain lépreux. Deux histoires qui vont nous montrer combien la grâce de Dieu est pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Ce matin, j'ai donné comme titre à ma prédication « La foi des païens ». La foi des païens. Si vous êtes un peu familiarisé avec le français, c'est une très jolie oxymore. Une oxymore, c'est deux choses qui s'opposent dans leur réalité. La foi des païens. Et quand on regarde ces deux histoires, que ça soit Rahab ou que ça soit ce Samaritain, qui d'entre nous pouvait leur accorder quoi que ce soit en rapport avec le royaume de Dieu ? Qui d'entre nous, de par leur situation, quand on s'intéresse déjà à ce Samaritain, le Seigneur Jésus va dire lui-même, ne s'est-il trouvé que cet étranger ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger ? Et ce matin, ma première pensée va pour toi, qui peut-être te situe comme étranger aux promesses de Dieu. Peut-être que tu te considères comme étranger à cette vie spirituelle. Peut-être que tu te considères comme étranger au plan que Dieu a pour ta vie. Parce que tout simplement, tu es comme ce Samaritain qui n'est pas élu pour cette promesse. Parce que il fallait savoir qu'à l'époque, la promesse qui était là était que pour le peuple de Dieu. Il était simplement vraiment ce peuple juif était la bénédiction. La bénédiction était sur ce peuple et réservée à ce peuple-là. Jésus est venu introduire une grâce excellente pour chacun d'entre nous. Mais à ce moment-là, ce Samaritain ne devait pas hériter cette promesse. Ne devait pas même pas pouvoir accéder à cette grâce immense que le Seigneur lui proposait. Mais nous savons très bien l'amour que le Seigneur Jésus a pour chacun de nous, chacun des êtres humains qui sont sur cette terre. Et même si c'est vrai, il y a des promesses vraiment particulières pour le peuple d'Israël, Jésus est venu pour sauver chacun d'entre nous. Quiconque, quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Et ce matin, ce Samaritain, peut-être qu'il représente ta vie. Peut-être que tu te sens loin de Dieu. Peut-être que tu te sens éloigné de Dieu parce que tu n'as pas encore fait ce choix de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Peut-être que tu n'as pas fait ce choix de pouvoir te donner pleinement au Seigneur Jésus. Et que tu n'as pas fait la paix avec lui. Mais que dans ton cœur, il y a un raisonnement et tu te dis, mais comment avec ma vie pécheresse, avec ma vie dans laquelle je suis, je peux seulement mériter la grâce de Dieu? Comment seulement je peux accéder aux promesses de Dieu? Comment le Seigneur Jésus pourrait entendre ma foi si seulement même j'ai la foi? Comment le Seigneur Jésus pourrait considérer ma vie? Et ce matin, le Seigneur Jésus veut te rappeler cette grâce immense, c'est qu'il t'aime. Et qu'il ne considère pas ta vie, il te dit simplement, est-ce que tu crois en moi? C'est, les Hébreux ont observé ce qui se faisait à l'époque. On voit plusieurs textes où il y a différentes guérisons, on voit des hommes, on voit des femmes qui, malgré certains interdits, ont bravé la foule pour s'approcher de Jésus. Ces hommes-là sont restés à distance, comme ils se devaient de le faire à cette époque-là, parce que les lépreux, c'était vraiment ceux qui étaient repoussés, c'était les rebuts de la société, il ne fallait pas qu'ils se mélangent avec les autres. Et combien, dans la parole de Dieu, on voit aussi combien l'image de la lèpre est tellement souvent associée au péché. Et dans cette parallèle que l'on peut faire si facilement, est-ce que ta vie est comme vraiment remplie de péché, contaminée par le péché, au point que ça puisse se voir sur ta peau, au point que ça puisse se ressentir dans ta vie? Et tu te tiens à distance. Tu te tiens à distance des choses, de la personne qui peut te sortir de ta situation. Et tu es là à distance. Mais malgré qu'il soit à distance, à un moment donné, ces lépreux vont faire quelque chose. Ils vont crier à Jésus. Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus, maître, aie pitié de nous. Et ce matin, ça peut être ta prière. Aie pitié de moi. Dans ma situation, dans ce que je vis, Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur veut te rappeler, il veut que tu puisses faire cette expérience. Aie pitié de moi, mais il faut que tu cries à Jésus. Il faut que tu cries à Jésus, il faut que tu puisses dire, aie pitié de moi, Jésus. Que tu puisses t'adresser au maître. Aie pitié de moi, viens dans ma vie, viens me toucher, viens me changer, viens me transformer. Et le Seigneur Jésus va toujours te pousser à mettre ta foi en action. Et là, tu te dis, mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Moi, dans ma vie, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je ne connais pas la parole de Dieu. Moi, je suis peut-être étranger de ces choses-là. Mais la foi dans cette histoire est tellement simple. Tellement simple. Jésus va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. C'est ce qui était prévu dans la loi quand on était guéri de la lèpre. Mais une fois qu'on était guéri, on devait aller se montrer au sacrificateur, faire constater notre guérison. Mais là, Jésus va faire quelque chose de particulier. Il va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur, alors qu'ils n'étaient pas encore guéris. Et leur foi va se mettre en action. L'obéissance à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils vont simplement mettre cette obéissance dans la parole de Dieu. Et il nous est dit que, en chemin, ils n'étaient même pas arrivés encore là où ils devaient aller, mais en chemin, ils ont constaté que la guérison était là. Que la guérison était là. Ces hommes qui étaient étrangers, peut-être ces païens, on ne connaît pas le détail de ces lépreux, on ne sait pas qui c'était, on ne sait pas s'ils étaient juifs ou pas, on n'en sait qu'un seul. On sait que cet homme-là était étranger, c'était un samaritain. Mais cet homme-là va faire quelque chose de vraiment particulier. Parce que dans la parole de Dieu, il y a d'autres passages qui nous montrent combien Dieu peut guérir quiconque s'approche de lui. Mais la guérison physique est une chose. La guérison physique peut déjà arriver à amener un soulagement dans ta vie extraordinaire. Parce que quand tu es vraiment atteint d'une maladie, quand il y a vraiment quelque chose qui te fait mal dans ton corps, et que la grâce de Dieu vient se poser sur toi, la joie, le soulagement, Le bonheur qu'il peut y avoir quand Jonathan nous a dit, c'est vrai, il y a tellement un bonheur particulier quand le Seigneur Jésus agit dans nos vies. Mais le Seigneur veut faire plus que ça. Parce que la guérison du corps, c'est quelque chose de passager. Et nous savons tous qu'un jour nous mourrons. Notre corps va se détruire. Mais cet homme va revenir avec un cœur reconnaissant envers le Seigneur Jésus. Il nous est dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. À haute voix. Et il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Quelle attitude! Quelle attitude de reconnaissance! Je ne sais pas ce que le Seigneur Jésus a fait pour ta vie, mais cet homme-là a compris une chose importante. C'est que Dieu a agi dans sa vie. Il l'a reconnu, il l'a déclaré. Et il est venu se prosterner aux pieds de Jésus pour l'adorer. Et Jésus va discerner quelque chose de particulier que lui seul est capable de faire. Lui seul. Il va mettre l'accent sur le fait que c'est un étranger, quelqu'un qui ne devait pas hériter de cette promesse, mais qui a eu la grâce, parce que le Seigneur Jésus est un Dieu de grâce, de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, de pouvoir accepter, de pouvoir gagner, de pouvoir vraiment être au bénéfice de cela, de cette bénédiction. Et Jésus va lui dire, puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mais c'est ça le plus important. La guérison du corps est quelque chose d'excellent. Mais là, c'est son âme qui a été sauvée. Parce que cet homme est revenu au pied du Jésus, cet homme est venu un cœur reconnaissant, et cette foi qu'il a eue pour pouvoir être guéri, il l'a maintenant mis devant le Seigneur Jésus pour reconnaître qui il était. Et le Seigneur Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Et là, on ne parle plus du corps matériel, on ne parle plus de ce corps charnel qu'il va se détruire, on parle de notre âme qui est éternelle. Notre âme qui est éternelle. Et là, c'est vraiment quelque chose d'important. Vraiment quelque chose d'important. S'occuper de son âme. Maintenant que nous avons vu vraiment un peu ce Samaritain, combien nous avons vu, combien il a mis sa foi en action alors que c'était un étranger. Revenons sur Rahab. Rahab, notre prostituée. Rahab, la prostituée. Il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas d'un premier abord. Pourquoi Rahab, la prostituée, a-t-elle été citée dans les héros de la foi, dans Hébreu? Rahab, la prostituée. Quand on regarde ce qu'elle fait, elle va mentir ouvertement. Et là, ça va interroger notre foi, interroger notre conscience, interroger notre façon de comprendre certaines choses. Et de se dire, mais je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi Dieu va-t-il honorer une telle femme? Elle a une vie qui est délabrée. Elle ment. Elle a son péché est ouvertement connu. Alors pourquoi le Dieu va honorer une telle femme? Et c'est vrai que cela peut nous interpeller. Et c'est un autre point que j'aimerais vraiment aborder avec vous ce matin. Et vraiment comprendre que la foi n'est absolument liée en rien à notre consécration. Ce n'est pas parce que ce matin tu te consacres que tu as forcément la foi. Et c'est deux choses séparées. Et nous allons le voir un peu plus. Mais là, ça nous interpelle. Et presque ça nous donne une leçon. Rahab, la prostituée, nommée comme héros de la foi. Mais que s'est-il passé dans le cœur de cette femme pour que dans son péché, dans tout ce qu'elle vit, elle puisse à un moment donné se tourner vers Dieu et mettre sa foi en action, alors qu'elle ne faisait pas partie non plus du peuple de Dieu, alors que là justement même son peuple dans lequel elle était condamné par Dieu à la destruction, c'était prévu, vous savez, la conquête de Canaan, ce n'est pas simplement, passez-moi l'expression, un délire de Dieu qui est passé comme ça. À un moment donné, il s'est dit, bon, mais je vais exterminer tous les peuples qui étaient là. Mais il y avait un plan. Il y a un verset qui nous est dit que, je ne me rappelle plus exactement comment c'est dit, mais il est dit que le temps n'était pas encore venu parce que ce peuple-là n'avait pas mis le comble à son péché. Et que Dieu patientait avant que ce peuple puisse être exterminé. Parce que dans tout, le Seigneur est un Dieu de grâce, même si on ne comprend pas tout. Mais là, le temps était venu pour que la conquête du pays soit faite, pour que les 12 tribus puissent s'installer, mais parce que aussi un jugement devait tomber sur ces peuples-là. Mais dans ce jugement qui était là, face à tous ces péchés, face à toute cette idolâtrie, il y a cette femme qui est là. Mais vous avez vu ce qu'elle va dire aux espions ? Est-ce que vous avez vu ce qu'elle va dire aux espions ? Je le sais. L'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À ce moment-là, la parole de Dieu n'était pas écrite. Mais le peuple de Dieu était la parole de Dieu pour tous ceux qui étaient autour d'eux. Et ils étaient une parole vivante. Ils étaient une parole vivante. Tous les exploits qu'ils faisaient, tout ce qui s'était passé dans le pays d'Égypte, tout ce qui était passé quand ils ont traversé la mer Rouge, tout le monde dans la région a appris ce qu'ils ont fait, a appris comment Dieu, d'une main puissante et d'un bras étendu, ils sont venus au secours de ce peuple. Et cette femme-là va témoigner de ça en disant « Mais tout le monde sait la terreur que vous inspirez et nous savons très bien que le Dieu que vous servez est un Dieu véritable. » Et tous ces exploits qui vont être là vont faire naître la foi dans cette femme. Alors c'est vrai, sa vie n'était pas parfaite, sa vie était encore dans le péché, sa vie méritait peut-être un certain jugement. Mais Dieu regarde au cœur et Dieu regarde à la foi. Et ce matin, le Seigneur veut te rappeler cela. Il regarde à la foi. Trouve-t-il la foi dans ton cœur ? Y a-t-il encore cette foi qui est là, de savoir que Dieu est capable d'agir dans ta vie ? Dans le deuxième passage de Josué que nous avons lu, une fois que cette femme va être sortie de cette muraille, parce que sa maison en plus était une des maisons les plus exposées puisqu'elle était sur la muraille, il nous est dit à la fin du verset 25 du chapitre 6, il nous dit « Josué laissa la vie arable, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle habite au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. » Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, la descendance, qui est-ce qu'il y a dans la descendance de Rahab, la prostituée ? David ? Le roi David, c'était son petit-fils. Et qui dit le roi David ? Dit Jésus. Mais c'est extraordinaire, la grâce que le Seigneur a pour chacun de nos vies. Rahab la prostituée, qui est marquée dans la parole de Dieu comme Rahab la prostituée, va être dans la lignée de Jésus. Dans la descendance, Jésus va faire partie de sa descendance. Mais parce que cette femme a laissé l'œuvre de Dieu se faire dans sa vie, bien sûr que sa vie n'était pas encore parfaite quand la foi a commencé à naître. Mais la conclusion de c'est quoi ? C'est que la foi va commencer à naître, cette femme va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Elle va reconnaître que l'Éternel est au-dessus de tout, que c'est lui qui règne dans les cieux, que c'est lui qui règne sur la terre. Et puis, elle va habiter dans la maison d'Israël. De étrangère qu'elle était aux promesses de Dieu, elle va se faire, elle va devenir héritière de la promesse. Mais combien ça parle à nos vies ? Peut-être que ce matin, tu es là et tu luttes avec toi-même. Tu fais déjà peut-être partie même du peuple de Dieu. Tu es chrétien, tu es engagé, mais tu luttes avec toi-même parce que tu te dis « J'ai péché, je ne sais pas ce que j'ai fait » et tu t'oses plus t'approcher de ton Dieu. Mais Dieu ne regarde pas à ton péché. Il a la capacité d'effacer ton péché. Si tu viens dans sa présence, si tu viens te repentir, si tu viens reconnaître ta faute, le Seigneur est capable de restaurer ta foi, de restaurer ta vie. Cette femme-là était étrangère. Elle avait une vie saccagée. Mais elle a reconnu que l'Éternel était Dieu. Et puis elle est venue habiter dans la maison d'Israël. Elle est venue habiter au milieu du peuple. Et elle a demeuré là. Elle a demeuré là. Mais pour moi, je trouve ça extraordinaire de voir la grâce qui est mentionnée au travers de ces vies-là. Et combien ce matin, ces deux personnages, que ça soit Rahab, que ça soit ce Samaritain, me donnent une leçon de vie, me donnent une leçon de foi. C'est cette femme, cet homme n'a pas regardé à sa condition. Ils ont simplement regardé à ce Dieu qu'ils ont reconnu à un moment dans leur vie. Et ce matin, j'aimerais encore nous donner un encouragement parce que je sais que des fois, on peut passer par des moments difficiles. Des fois, on peut traverser certaines situations et notre foi peut défaillir. Des fois, comme je l'ai dit, le péché peut revenir dans notre vie. On peut se laisser attraper par le péché et on n'ose plus regarder à notre Dieu. On n'ose plus prier, on n'ose plus se confier parce que on va se dire « mais ma vie est tellement sale, ma vie est tellement mauvaise, il y a tellement de choses que j'ai laissées. » Il y a tellement de mauvaises herbes que j'ai laissées pousser dans mon cœur, que je ne suis plus capable de me tenir dans la présence de mon Dieu, que je ne crois plus que Dieu puisse bénir ma vie. Ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais vraiment t'encourager à pouvoir tout à nouveau tourner les regards vers Jésus. Tout à nouveau te mettre devant sa face. Tout à nouveau t'humilier. Tout à nouveau, comme ce Samaritain, venir se jeter aux pieds de Jésus. Et lui dire, s'il te plaît, Seigneur, interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie. On aurait pu prendre d'autres passages. J'ai pensé à ce brigand sur la croix. Lui non plus, sa vie ne méritait pas. Il n'y a rien dans sa vie qui méritait que Dieu puisse poser ses regards sur lui. Mais à un moment donné, il a reconnu Jésus. Il a dit, ce qui lui arrive, ce qui nous arrive à nous est justice. Mais lui, qu'a-t-il fait? Et il a reconnu au travers de Jésus, vraiment Dieu. J'ai pensé à Naaman, ce général syrien, un étranger aussi, va venir parce qu'une petite fille va lui parler de ce que le prophète de l'Éternel est capable de faire. Il va venir et il va reconnaître. Et pareil, son cœur va être changé. Non seulement la guérison va avoir lieu, mais son cœur va être changé. Il va reconnaître qui est Dieu. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu, tellement d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent combien l'Éternel bénit celui qui croit en lui, sans distinction, sans regarder ta consécration, sans regarder ceci ou cela. Simplement, as-tu la foi dans ton cœur? Crois-tu que Dieu peut agir? Crois-tu que l'Éternel est Dieu? Et j'ai aussi à cœur, parce que cette pensée était forte sur mon cœur, de pouvoir vous dire cela, je voudrais le dire comme un avertissement, avec amour, avec vraiment simplicité. Mais pour que nous puissions vraiment rester focus sur ce que nous dit la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse faire attention que nos œuvres ne deviennent pas une justification pour nos vies. Ce que je fais, ce que je suis capable de faire, mon implication dans l'église, ma vie de prière, peu importe ce que tu peux mettre en avant, deviennent comme ceux avec lesquels tu vas te confier pour venir devant Dieu et pour réclamer sa grâce. Seigneur, tu as vu tout ce que je peux faire, tu as vu le temps que je passe devant toi, tu as vu ceci, tu as vu cela. Et comme la loi a été un piège pour les Israélites, parce que ils se sont confiés dans la loi et non pas dans le Dieu de la loi, de même nous pouvons vraiment nous confier dans nos efforts et en oublier que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Quand on lit l'Épître aux Romains, je vais juste passer quelques versets, mais quand on lit l'Épître aux Romains, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5, on voit tous ces encouragements sur la foi. Combien ils vont citer, le début du chapitre 4 nous dit, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il y a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et celui-là a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui a été comptée comme justice. Sa foi lui a été comptée comme justice. Et ce matin, vraiment, je veux vraiment nous encourager. Et peut-être que c'est vraiment, je crois vraiment que c'est pour quelqu'un. Je crois vraiment que c'est pour quelqu'un. Abraham aurait pu se confier dans tout ce qu'il avait accompli. Il aurait pu vraiment puiser sa force dans sa justice. Mais ce qu'il a accompli, le texte est clair. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Et ce texte nous recentre vraiment sur le fait que tout n'est que grâce et que notre foi doit être basée non sur ce qu'on est capable d'accomplir, non sur notre consécration, non sur notre onction, non sur ta vie de prière, mais vraiment sur le fait que nous croyons dans un Dieu qui est extraordinaire, que nous croyons dans un Dieu qui est capable de tout, que nous croyons dans un Dieu qui est capable d'ouvrir la mer en deux, qui est capable de changer le mal en bien, qui est capable d'effacer le péché, qui est capable de guérir le corps malade, qui est capable de délivrer le captif. Et notre foi doit être fixée toujours et encore sur cela. Et ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions pas tomber dans ce piège si facile de nous confier dans nos années de conversion, de nous confier dans ce que nous avons déjà accompli par le passé, de savoir que oui, mais quand j'ai jeûné, quand j'ai fait telle action, quand je me suis donné au Seigneur, quand il y a eu telle chose, le Seigneur a agi. Oui, le Seigneur agit parce qu'il honore sa parole. Le Seigneur agit parce qu'il voit certaines choses dans ton cœur. Mais si tu commences à te confier dans ce que tu as fait dans le passé, tu n'as plus confiance dans ton Dieu, tu as confiance en toi-même. Et le Seigneur ce matin voudrait simplement t'avertir et te rappeler que ta foi ne doit pas être sur ce que tu as accompli. Ta foi ne doit pas être basée sur tes exploits, mais ta foi doit toujours être accrochée à notre Seigneur Jésus. Il doit être accroché à notre Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples de Rahab la prostituée et de ce lépreux. Parce que eux n'avaient rien. Ils n'avaient rien pour présenter à Dieu. Qu'est-ce que Rahab pouvait présenter à Dieu pour être acceptée dans sa présence? Est-ce que c'est ses péchés qu'elle pouvait présenter? Est-ce que c'est sa justice qu'elle pouvait présenter? Est-ce que ce Samaritain lépreux pouvait présenter sa lèpre au Seigneur pour dire, mais grâce à ma lèpre, tu dois me bénir? Non. En toute simplicité de cœur, en toute honnêteté devant le Seigneur, cette femme, cet homme et bien d'autres se sont simplement présentés devant le Seigneur Jésus. Et ils ont crié à lui parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient besoin de lui. Ils ont reconnu combien ils étaient nécessiteux de Jésus, de Dieu, de vraiment avoir cette grâce qui vient d'en haut. Et ce matin, vraiment, c'est vraiment le cœur serré que je veux vous donner, cet encouragement, que je veux vraiment laisser cet avertissement. Mais ne le prenez pas comme une condamnation, prenez-le comme vraiment un avertissement d'amour de la part du Seigneur qui te dit, mais fais attention de vraiment baser ta foi, de garder ton esprit concentré sur Jésus et non sur toi. Ne te confie pas dans ta propre justice. Ne dis pas dans ton cœur, si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que j'ai accompli des œuvres justes. Ne te confie pas dans ta justice. Mais sois vraiment reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Frères et sœurs, tout n'est que grâce. Le chapitre continue un peu plus loin et il dit « David va exprimer le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce matin, si on peut se présenter devant le Seigneur Jésus, si ce matin on peut se présenter avec assurance devant le trône de grâce, c'est parce que le sang de Jésus a coulé. C'est parce qu'on a été lavé de nos péchés. C'est parce que le Seigneur Jésus a offert son corps en sacrifice. Personne sur terre ne peut se présenter devant Dieu en amenant un trophée, en disant « Mais moi, je mérite. Moi, je peux rentrer dans la présence de Dieu parce que j'ai accompli telle ou telle chose. » Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Le texte continue, il dit « Mais ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis ?» Ce bonheur est pour tout le monde. Et ce texte nous a apporté une précision. Il va nous montrer que vraiment la foi d'Abraham a agi, mais au moment où il n'était pas encore circoncis. La circoncision d'Abraham est arrivée après pour nous montrer combien l'Éternel veut bénir celui qui croit en Jésus, celui qui place sa confiance en lui, et que ça n'a rien à voir avec les œuvres qu'on peut accomplir. Ça n'a rien à voir avec la justice dans laquelle tu peux être. Rahab, la prostituée, va être citée non seulement dans Hébreux, mais elle va être aussi citée dans Jacques, parce que sa foi va être mise en avant, et pour montrer que sa foi doit être agissante. Il ne faut pas se confier dans les œuvres que l'on fait, mais il faut que ta foi produise des œuvres. Tout l'équilibre de la parole du Seigneur, tout l'équilibre du Seigneur Jésus. Tu ne dois pas te confier dans tes œuvres, mais ta foi doit produire des œuvres. Tout comme Rahab. Sa foi a produit, elle craignait Dieu, elle avait compris qui était Dieu, et sa foi l'a fait cacher les espions, et a compris que la bénédiction, que son salut était rattaché à ces hommes-là, parce que ces hommes-là étaient le peuple de Dieu, et que le seul moyen d'avoir le salut à ce moment-là, c'était de faire partie du peuple de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, dans chacune de nos vies. Le Seigneur Jésus veut voir notre foi agissante. Il veut voir notre foi qui est là et qui croit en lui, qui lui fait confiance et que cette foi produit quelque chose. Il faut que notre foi soit vivante et agissante. Vraiment, je crois que le Seigneur Jésus nous aime tellement. Le Seigneur Jésus a tellement d'amour pour chacun d'entre nous. Le Seigneur Jésus a tellement des désirs extraordinaires dans son cœur pour chacun d'entre nous. Il veut te bénir. Il veut nous bénir. Il faut que nous soyons conscients de cela. Et ce matin, vraiment, juste pour conclure, je vais nous rappeler cela. Cette grâce. Nous rappeler comment le Seigneur Jésus nous a aimés. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre conscience que peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, que tu aies donné ta vie à Jésus ou que tu ne l'aies pas donné, que ça se fasse des années que tu marches avec le Seigneur Jésus ou que tu commences à peine ta marche avec lui, que tu sois embourbé dans certains problèmes, dans certains péchés depuis des années ou que tu viennes voir simplement que l'ennemi t'a surpris, il t'a attrapé. Le Seigneur Jésus, ce matin, te laisse encore l'occasion de tout à nouveau porter tes regards sur lui, de tout à nouveau regarder à celui qui est capable de transformer ta vie, qui est capable de te restaurer, qui est capable de te donner des choses extraordinaires, qui est capable de te communiquer des grâces extraordinaires, qui est capable de restaurer ta vie, qui est capable de te bénir. Mais il faut pour cela que tu places ta confiance, que tu mettes ta foi en Jésus. Il faut que tu mettes ta foi en Jésus.